La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. La grâce et la paix, ces deux mots. L'un d'origine grecque, charis, la grâce. En fait, ça me touche, ces deux mots. Ça me touche que l'un soit d'origine grecque, parce que la grâce, c'est gratuit, c'est un cadeau. C'est heureux, c'est joyeux. Et l'autre, et ça ne touche que l'autre, la paix, shalom, ça soit un mot hébreu encore courant aujourd'hui, utilisé dans les salutations quotidiennes, qui signifie la paix. Et que ce soit aussi ces deux mots qu'on trouve si souvent au début des épîtres de Paul. Alors, vous tous qui êtes ici aujourd'hui, bienvenue, soyez les bienvenus à ce culte. Pour ce temps de culte que tu nous offres, pour ta parole qui court à notre rencontre depuis tant de siècles, ta parole inlassable, ta parole qui encore et toujours nous appelle aujourd'hui. Notre ami Henri Persaude, voilà, je suis là. C'est que notre ami Henri Persaude n'a pas pu se joindre à nous. Il n'a pas pu venir aujourd'hui au foyer de l'âme et soyez-en sûrs, il le regrette énormément. Vous savez comme il aime être ici, avec nous, avec la communauté, au foyer de l'âme, et comme il aime y présider les cultes. Mais vous savez peut-être aussi que c'est un ami fidèle qui est ici depuis si longtemps. Alors, il a préparé la prédication que je vous lirai de sa part tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez bien les deux recueils, le bleu et le marron pour les chants. Et je vous propose de vous lever pour invoquer notre Dieu en chantant avec la strophe numéro 1 du psaume 98. Le psaume 98, c'est le psaume du jour.
Thank you.
en guise de louange, je vous propose le psaume 8. Et avant de commencer à le lire, juste une remarque. Il y a le mot Seigneur qui apparaît dans ce psaume à plusieurs reprises. Et juste pour vous dire que c'est la traduction du tétragramme. Et que peut-être on peut y penser en l'écoutant. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À présent, pour continuer cette louange, eh bien, nous pouvons chanter la suite du psaume 98. La volonté de Dieu, je vous propose Matthieu que nous allons retrouver plus loin dans la prédication. Matthieu 22, bien sûr. Et là, vous savez, c'est le moment où les pharisiens sont réunis, rassemblés, et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, évidemment. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Page 21, le spontané dans le livret bleu, page 21. Dieu, je suis tourmentée. La terre est magnifique, mais elle est pleine de chaos. Et que faisons-nous ? Nous nous sentons impuissants. Tu nous as confié la terre et tout ce qu'elle contient, mais qu'avons-nous fait ? N'avons-nous pas fait passer nos désirs, avidité, appât du gain, avant tout le reste ? N'avons-nous pas trié, compté, calculé sans cesse ? Mon Dieu, je me pose des questions. Nous voudrions faire le bien, mais que faisons-nous ? Ne faisons-nous pas sans cesse le mal que nous ne voudrions pas faire ? Alors, que sommes-nous ? Des pécheurs ? Et qu'est-ce que cela veut dire ? Et que sommes-nous ? Si tu ne viens pas à nous. Dieu, tu nous appelles, que nous t'entendions. Selon les mots de Paul Tillich, nous pouvons dire « Tu nous acceptes, bien que nous soyons inacceptables. » Nous étions en train de tourner en rond comme un écureuil dans une cage, et tu nous as arrêtés. Tu nous pardonnes, nous sommes libérés. Tu as compassion pour nous, ce qui nous remet dans la possibilité d'avoir compassion pour les autres. Et ça change tout. Merci, mon Dieu. La confession de choix, Pour la confession de foi, j'ai choisi celle d'André Gounel. Il faut vous dire que j'ai beaucoup lu André Gounel pour préparer cette liturgie. Et voilà. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous le rencontrons surtout en Jésus le Christ, celui qui s'est abaissé, donné, approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'Esprit. Esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Approchons le moment de la prédication. Pour rentrer dans ce temps, il y a une prière d'illumination, mais moi je vous propose qu'on la chante ensemble et qu'on utilise pour cela le cantique 299. La lecture que Henri nous a proposée, c'est Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Un récit connu. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la compassion que je veux et non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Délicieux festin est raconté par les trois évangiles synoptiques, de façon très comparable, mais avec cependant quelques détails propres à chaque évangile. C'est ainsi que nous pouvons parler d'un festin organisé par Matthieu, Matthieu le collecteur d'impôts, qui n'est pas l'évangéliste, probablement quelques jours après qu'il ait suivi l'appel de Jésus. Nous y trouvons là rassemblée une grande partie des groupes qui se croisent et s'entrecroisent tout au long des évangiles. Autour de Jésus, il y a évidemment ses disciples, et puis beaucoup de collecteurs d'impôts, les amis de Matthieu, puisqu'il était lui-même collecteur d'impôts. Ils sont toujours pris pour cible des personnes haïssables dans les évangiles. D'abord parce qu'ils collaborent avec la puissance romaine occupante. Ce sont des collabos. Et ensuite, parce qu'ils gardent une partie des taxes collectées pour eux-mêmes comme rémunération de leur travail. Mais ce sont eux qui en fixent le montant. Et les autres considèrent évidemment que c'est beaucoup trop, comme on le voit encore aujourd'hui. Et Jésus choisit volontairement un collecteur d'impôts parmi ses disciples, et avec quelle autorité, puisque Matthieu, à son bureau des taxes, ne peut faire autrement que de le suivre. Jésus ne recherche pas à s'entourer d'une troupe de gens irréprochables, mais il préfère des gens mal aimés, pour montrer sans doute jusqu'où doit aller la compassion dont il nous parle dans cette histoire. Ensuite, nous avons à ce repas des pécheurs. Mais ils n'ont pas plus péché que les autres. Mais ils ne sont pas juifs, ou à la marge du judaïsme, pas spécialement pieux, et ne suivent pas bien, ou pas du tout, la loi juive. Disons des juifs sociologiques. Mais surtout, la scène se passe en Galilée, pas loin du lac de Tibériade. Et dans ce pays, il n'y avait pas que des juifs dans la population, loin de là, mais encore beaucoup de païens venus de plus loin et plus ou moins influencés par la culture grecque. Et tout ce qui n'était pas juif, pas assez juif, en ne suivant pas bien la loi, c'était des pécheurs à mettre dans le même sac que les collecteurs d'impôts. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot « pécheur » est souvent synonyme de « païen ». Et puis, il y a les inévitables pharisiens qui harcèlent Jésus tout au long des évangiles et qui, eux, suivent bien la loi et reprochent à Jésus de manger chez un collecteur d'impôts et avec des pécheurs. Ils ne s'étaient donc probablement pas invités au festin. Dieu les en garderait bien. Mais il regardait simplement tous ses convives, peut-être assis sur le rebord de la fenêtre. Pour ces repas populaires, c'était un peu comme chez nos jeunes aujourd'hui. On prévoyait un festin, celui-là en l'honneur de Jésus, mais on ne savait pas très bien qui allait venir. Les portes étaient ouvertes et venait qui voulait. Ceci explique que beaucoup s'invitaient d'eux-mêmes, et ici nous avons des étrangers, des pécheurs, attirés par la réputation de Jésus. Beaucoup de repas sont décrits dans la vie mouvementée de Jésus, depuis les noces de Cana jusqu'à la scène, en passant par la multiplication des pains. Beaucoup de repas aussi chez les pharisiens, sans compter les paraboles, comme justement celle d'un roi qui donne un grand festin auquel tous les invités ne viennent pas. Comme aujourd'hui, les repas, petits ou grands, étaient le moment du partage entre les amis, partage du pain pour vivre, mais aussi de la parole, des amitiés, des solidarités, des soutiens les uns aux autres. C'est le partage qui crée la communauté. Les repas commencent toujours par la bénédiction, moment pour rendre grâce à Dieu, l'Eucharistie comme on dit en grec. Rassemblement préfigurant d'une certaine façon le royaume de Dieu, représenté souvent par un grand festin, comme dit un convive lors du repas raconté par l'évangile de Luc, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Bonne raison donc pour ne pas manger avec les pécheurs qui ne seront sûrement pas invités dans le royaume, ces étrangers qui viennent d'on ne sait pas où et qui surtout ne vivent pas comme nos pères nous l'ont enseigné. Que viennent-ils faire chez nous? Qui les a invités? Et regardez comme ils mangent! Ils ne connaissent même pas nos bonnes manières qui nous viennent de Moïse et de quelques autres prophètes. La solidarité entre nous, d'accord, mais il faut quand même savoir où l'arrêter. Jésus inverse complètement les arguments. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Le plus important dans ces repas, ce n'est pas de vous tenir entre vous qui êtes de la bonne société, mais d'accueillir aussi les autres, pas bien intégrés dans le judaïsme, les pécheurs, et ceux que vous ne pouvez pas supporter, les collecteurs d'impôts. Vous n'avez pas besoin qu'on s'occupe de vous, mais ceux-là qui viennent d'ailleurs, qui ne croient pas forcément ce que vous croyez, ceux-là qui sont réprouvés, malades, fragilisés, parce qu'ils ne trouvent pas bien leur place dans ce judaïsme ancestral. Bref, les pécheurs. C'est eux qui ont besoin d'être accueillis, d'être admis dans la communauté. Jésus va chercher l'aide du prophète Osée, qui reproche à la population d'Israël d'aimer comme la rosée du matin. Elle est bien rafraîchissante, mais elle ne dure qu'un instant. L'amour qui passe, mais qui n'a pas de solidité, comme le sacrifice d'un instant, et puis on passe à autre chose. Mais Dieu réclame bien plus, la compassion, une compassion durable. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. L'apôtre Paul explique bien que la foi rend juste. Et cette affirmation, redécouverte par Luther, a été une des bases de la Réforme. L'évangéliste Matthieu, qui n'a rien à voir avec celui qui reçoit Jésus dans sa maison, ne dit pas le contraire. Il écrit simplement que Jésus ne s'intéresse pas aux justes, mais à tous ceux qui viennent d'ailleurs, d'une autre culture, et qui sont donc pécheurs, et qui s'installent à notre table. Qu'est-ce d'ailleurs qu'être juste? Les justes, hier comme aujourd'hui, sont ceux qui se considèrent du bon côté, comme les pharisiens, du côté de Dieu, protégés par Dieu. Il faudra encore plusieurs révolutions pour que la justice, celle prêchée par les évangiles, s'installe vraiment dans notre monde. Chers amis, qui pensons avec Paul que puisque nous avons la foi, nous sommes justes, ou puisque nous avons un peu la foi, nous sommes un peu justes. Réalisons bien que Jésus ne s'intéresse pas à nous, mais à tous les autres qui sont malades, pécheurs, mal à l'aise, souvent venus de loin, d'un autre monde. C'est la compassion que je veux, dit Jésus en réponse aux pharisiens. Et c'est ce que nous a confié, c'est ce que nous a envoyé Henri pour nous aujourd'hui. Thank you. C'est maintenant le temps des annonces. Autant vous le dire tout de suite, il y en a un certain nombre. Alors d'abord, l'annonce principale pour cette semaine, c'est la fête de l'amitié, qui est vraiment un moment chaleureux de partage de la communauté et de collecte pour la paroisse. Alors, on peut quand même dire aussi qu'il y a une étude biblique cette semaine, qui est mercredi soir, mercredi 20, sur Ésaïe, et que cette étude biblique est exactement au même moment que l'installation de la fête de l'amitié, le déménagement du culte. Les volontaires sont les bienvenus pour l'étude biblique ou pour le déménagement. Bien sûr, nous avons des billets de tombola, ils sont au fond du temple pour l'instant. Pour la fête de l'amitié, je crois que c'est tout, mais venez, ça serait super. Ensuite, une chose importante, le repas de Noël, voilà, on va le préparer. C'est Brigitte et Joël Sick qui nous font un grand cadeau, c'est eux qui vont l'organiser. Ils vont nous faire un repas et c'est formidable, on s'en réjouit. Brigitte pourra vous dire le menu si elle le veut. Et puis, mais seulement, ils ont quand même posé une condition. Parce qu'ils ont besoin d'y voir un peu clair et de s'organiser. Donc, si vous voulez participer au repas de Noël, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Il y a un cahier là-bas. Vous pouvez commencer tout de suite, dès aujourd'hui, enfin un peu plus tard. Alors, ensuite... Ah oui, la date, le 15 décembre, avec le Noël des enfants. Voilà. Ensuite, une autre chose. Alors, ça, c'est un peu administratif, mais ce n'est pas qu'administratif. C'est une question qui nous a été posée à plusieurs reprises ces derniers temps, et encore aujourd'hui. Comment adhérer, faut-il adhérer à l'association cultuelle du foyer de l'âme ? Alors, écoutez, franchement, on ne peut que vous le recommander. En fait, c'est un encouragement pour la communauté et ça serait très très bien. Mais c'est seulement si vous le souhaitez, bien sûr. Et il y a des formulaires au fond qu'on a installés dans un présentoir maintenant. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que si vous avez envie de voter à l'Assemblée générale qui aura lieu le 29 mars, eh bien, il faudrait faire cette petite démarche assez vite. Parce que Dominique Hernandez, elle est en train de nous bousculer un peu, de nous faire avancer. Et notamment, elle nous a dit qu'en fait, la coutume, c'était que les nouveaux entrants, les nouveaux adhérents à l'association cultuelle du foyer de l'âme, ils soient validés par le conseil presbytéral et surtout que leur nom soit inscrit dans les comptes rendus du conseil presbytéral, faire partie de la paroisse. Alors, le prochain conseil presbytéral, c'est le 11 décembre. Donc, si vous voulez voter l'année prochaine, il faut s'inscrire aujourd'hui, enfin, d'ici le 11 décembre. Voilà. Il y a une annonce de Marie-Geneviève, et puis après j'en ai une autre.
Bonjour, alors je voulais vous parler d'une association récente qui s'appelle Utopia 56 et qui a pour vocation l'accueil des réfugiés qui viennent d'arriver, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore déposé leur demande d'asile. Et c'est très léger, c'est pour ça que je vais vous en parler. Pour les personnes qui n'osent pas sauter le pas, il s'agit d'accueillir une nuit ou deux nuits des personnes qui arrivent accompagnées de bénévoles de l'association, ayant mangé. Ils mangent Porte de la Chapelle, et sinon l'association est à Porte d'Aubervilliers. Et il s'agit juste de leur permettre de se reposer. Donc pas forcément d'ailleurs de parler beaucoup, parce que leurs histoires sont lourdes, ils les ont déjà racontées, parfois ils vont les raconter encore. Il s'agit seulement de leur offrir du repos, une nuit, deux nuits. Après, si vous vous inscrivez, vous donnez les périodes où c'est possible pour vous, c'est vraiment très léger. Quand vous ne pouvez pas, vous dites non. Même si vous êtes déjà inscrit, par exemple, pour tous les mercredis ou quelque chose comme ça. Ça peut être une fois par trimestre, ça peut être très peu de fois. Moi, je l'ai fait 4 fois seulement, ça s'est bien passé. Et ça s'adresse surtout prioritairement aux femmes et aux familles, femmes avec enfants ou parfois avec un couple. Ça dépend de vos possibilités. Et puis il y a aussi une autre formule pour les mineurs isolés, pour lesquels on demande plutôt une semaine d'accueil, parce qu'ils ont besoin d'être plus entourés et de ne pas changer forcément tous les soirs. Voilà, donc ils arrivent ayant mangé, et le lendemain matin, après un petit déjeuner partagé, on doit les raccompagner à un métro ou un bus pour les aider à rejoindre leur lieu d'accueil de jour. Voilà, si vous voulez m'en parler, je suis là.
Merci.
Oups. Moi, ce que je voulais vous dire encore, c'est vous parler des cultes-conférences. Est-ce que vous avez vu les affiches à l'entrée? Les cultes-conférences cette année, les dates ne sont pas les mêmes que les autres années. Ils auront lieu pendant tout le mois de janvier, du 5 janvier au 26 janvier, sur le thème « Je ne sais pas ». Voilà, c'est le thème « Je ne sais pas ». Et on a la chance, mais vraiment la grande chance, de recevoir Henri Atlan, qui est philosophe et biologiste. Ensuite, il y aura Dominique Hernandez. Ensuite, Olivier Abel, bien connu. Et on terminera avec le président de la CIMAD, le nouveau président de la CIMAD, Henri Deltombe. Alors, notez bien ces dates dès maintenant, parce que je pense que ça va être très bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce ?
Voilà, juste rappeler que depuis quelques mois, notre entraide était engagée dans l'accueil de réfugiés qui viennent de Toulon, de Welcome Toulon, et que nous accueillons avec Chantal cette semaine une jeune réfugiée qui a été mariée d'office dans son pays, etc., et qui a un rendez-vous à la CNDA. Donc on les accueille. Donc ce serait très important qu'on mutualise un peu nos actions, parce que Utopia 56, je connais et j'apprécie beaucoup les actions. Et voilà. Et j'ai même fait la démarche pour mutualiser nos actions avec l'entraide de l'oratoire, parce que je pense que plus nous serons à accueillir, plus ce sera léger pour tout le monde. Voilà, c'est tout, et je suis ravie de voir que... Mais bon, il faudrait... Nous sommes, pour l'instant, je crois, 4 foyers à pouvoir héberger. 4 seulement, voilà. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y a deux missions qui peuvent être séparées. Celle d'accueillir et d'héberger, et celle d'accompagner au rendez-vous de l'OFPRA ou de la CNDA. Voilà. Ça peut être dissocié, parce que les mêmes, ce ne sont pas les mêmes qui peuvent, voilà, qui sont actifs dans la vie professionnelle et qui ne peuvent pas accompagner. Merci.
Mais c'est quand même bien de savoir ce qui se passe. Ouais. Et de savoir qu'il y a d'autres associations qui font du travail, et pourquoi pas, après on est libre, hein, chacun choisit comme il veut. Alors, voilà l'offrande avec un chant debout, bien sûr, et je vous propose le cantique 266, « Ô Jésus, mon frère ».
Thank you.
grand Dieu, merci. Merci de ce moment d'être là. Merci pour la fidélité. Merci pour la fidélité d'Henri Persoze et pour tout ce qu'il exprime de l'Évangile à notre intention. Mon Dieu, nous te prions pour tous ceux qui te sont fidèles. Donne-leur la force de garder cette fidélité où qu'ils se trouvent, qu'ils vivent dans nos pays encore protégés, où qu'ils se trouvent, dans tant de pays démunis, en crise ou en guerre. Nous te prions pour les petits, les fragiles, les rejetés, ceux qui sont malades ou en toutes sortes de difficultés, ceux qui viennent d'ailleurs. Donne-leur la force de vivre. Et n'oublie pas nos proches, ceux à qui nous pensons dans le secret de nos cœurs. Que tous trouvent sur leur chemin la compassion qui s'est mise en marche. Et nous voulons te dire tous ensemble, je vous invite à vous lever, comme vous le voulez, à l'intérieur de vous, à voix haute, la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
J'ai oublié la fin. Des siècles. Amen. Ouf. Bon, eh bien voilà, c'est la fin, effectivement. C'est maintenant le moment de quitter le temple, ce temps à part, et de retourner vers le monde qui est un merveilleux terrain d'exercice pour pratiquer la compassion. Ta, ta, ta. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Au revoir et bon dimanche.